Pierre Montebello, même si tu es un habitué du laboratoire Espace Cerveau, comme on est en visio, on ne sait pas bien qui nous suit, je vais rappeler que tu es philosophe, professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Toulouse et que tu es l'auteur notamment, je suis navré, on rappelle tout le temps le même texte, mais commissaire un peu de base à ce laboratoire Espace Cerveau, de Métaphysique cosmomorphe, la fin du monde humain, et c'était en 2015 auprès du réel. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ton intervention, Pierre, c'est soyez des multiplicités. Et il se trouve qu'on est pile poil dans le champ donc, de ce qui est écrit sur le programme, tu as jusqu'à 15h05. Est-ce que ça te va?
Ça me va beaucoup.
Eh bien, super.
Merci à tous, merci pour cette nouvelle invitation du laboratoire Espace Cerveau. Alors, j'ai pris la fabrique du nous à travers le problème qui a été posé par Pauline, c'est-à-dire le problème du rapport entre le je et le multiple. Et à travers un slogan qui avait été lancé par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, qui était « Ne soyez pas un, ni multiple, soyez des multiplicités ». Et il m'est apparu que cette formule disait des choses qui ont déjà été dites d'ailleurs. C'est-à-dire, elle avait posé cette question: comment est-ce qu'on passe de soi aux autres, de je à nous? Comment est-ce qu'on passe du subjectif au collectif, de l'intériorité à l'extériorité, et même d'une durée intérieure à une spatialité collective, d'une certaine manière. Parce que on voit bien que le problème, c'est que on ne peut pas être enfermé en soi, mais on ne peut pas non plus être enfermé à l'extérieur de soi. Et que la multiplicité, c'est le multiple tel qu'il va être uni par une même dimension, c'est la fonction du rituel, hein, entre parenthèses, une même cohésion, un même sens d'être. Si bien que, par exemple, des philosophes auront ce mot comme Simondon, parleront d'une sorte d'individuation collective. Comment est-ce que les je deviennent une individuation collective, et pas simplement un individu? Et ça se voit dans les croyances, dans les rituels de passage, dans les agencements sociaux, dans les regroupements politiques, dans les manières d'être anthropologiques ou ontologiques. Il y a une certaine manière pour les individus de se fédérer autour d'un mode d'être qui va traverser entièrement leur singularité et qui va en même temps traverser aussi bien les revendications minoritaires que les positions dominantes à l'intérieur du social, les croyances comme les sciences, selon des modes d'être toujours différents. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est précisément ce passage. Comment se fait la solidification, la consolidation, l'unification du multiple? Alors, c'est vraiment une question étrange parce que ce n'est pas si évident de penser cette transformation du je en une collectivité sociale, politique ou religieuse ou anthropologique. Et lorsque je pensais à cette question, je lisais en même temps le livre d'Umberto Eco, que vous avez sans doute tous lu, sur le nom de la rose. Et comme j'appartiens à un pays cathare, je me posais la question, ben, comment une multiplicité sociale, par exemple, devient une multiplicité hérétique ou une multiplicité de multiplicité hérétique? Et d'autant plus qu'en venant ici à Lyon, je ne peux pas ignorer que là, dans le cinquième, il y a Pierre Baldo. La rue a reçu le nom de Pierre Baldo, qui a donné le mouvement hérétique vaudois. Et le nom de la rose ne cesse de parler du mouvement hérétique d'Olsinien, cathare, vaudois, spéroniste, béguin. Mais derrière cette question que pose Umberto Eco, qui est une question très intéressante, hein, c'est-à-dire la transformation d'individualité en mouvement collectif hérétique au sein d'une réalité sociale, je me suis dit, c'est vraiment une question qui est très intéressante parce qu'elle suppose qu'il y a dans le social des forces de transformation qui vont faire que les individus vont être pris non seulement dans des systèmes de croyances et de représentations, mais dans des modes collectifs d'être. Et ici, très clairement, au XIIIe siècle, il s'agit d'une vague de fond anticléricale qui remet en cause les règles ecclésiastiques, les privilèges ecclésiastiques en matière de justice, d'impôts, de territorialité, lesquels sont de plus en plus contestés. Ce qui montre qu'on n'est pas hérétique par essence. On le devient parce que se fédèrent des intérêts très différents qui recoupent laïcs, notables, cités. Tous contestent la rupture entre clergé et laïcat. Et ces forces à l'œuvre dans le social montrent que l'hérésie n'est pas d'abord une religion, ni même une autre manière de pratiquer la religion, mais qu'elle est une manière de faire communiquer des forces sociales divergentes au sein d'une réalité sociale. Elle est une manière d'opérer une résistance minoritaire contre une église centralisée et extérieure. La nouvelle croyance qui en résulte, et la croyance est un ciment, c'est le ciment de la collectivité, cette nouvelle croyance qui en résulte et qui est le ciment visible de cette collectivité, est un affect qui précipite tous les autres facteurs, les facteurs théologiques, politiques, liturgiques, sociaux, comme si le collectif était soudainement précipité dans une autre dimension dont la croyance n'est que le vernis extérieur. Le meilleur exemple pris par dans le nom de la rose, parce qu'il n'y a toujours plus cet exemple, ce sont les pauvres du Christ, qui sont présents dans le nom de la rose, et qui ont été une hérésie extrêmement attaquée, parce que les pauvres du Christ prônaient le sacerdoce universel. Tout homme, selon eux, pouvait célébrer la messe. C'était une attaque sans précédent contre l'Église, ses privilèges liturgiques et ses richesses, avec cette affirmation simple, qui va être le ciment collectif de cette nouvelle collectivité. Le Christ n'a rien possédé. Alors, devenir une multiplicité, ça pose quand même une question. Et la question, c'est de savoir comment s'opère cette transformation du « je » en une nouvelle dimension. Et comme mon rôle ici, c'est d'intervenir un peu à titre de philosophe, je me suis beaucoup intéressé à un auteur que j'ai trouvé assez génial au XIXe siècle et qui, me semble-t-il, est le premier à avoir vraiment réfléchi sur ce que c'était qu'une foule, ce que c'était que des phénomènes de foule, et qui, dans un article fondateur, pionnier, dira qu'au fond, dans le réel, il y a deux tendances majeures qui excèdent d'ailleurs l'homme et qu'il va appeler désir et croyance. Cet auteur, c'est Gabriel Tarde. C'est un sociologue du XIXe siècle qui précédera Bergson au collège en chaire de philosophie. Et il définira le social comme des entités en relation, ça rejoint ce que disait Pauline tout à l'heure, qui s'entrepénètrent avec deux mouvements, qui est un mouvement de conquête et de possession qui s'appelle désir, et puis avec un autre mouvement de stabilisation, d'homogénéisation, de cimentation qui s'appelle croyance. Et cet auteur a quand même une idée totalement géniale, c'est que la croyance n'est pas d'abord un phénomène religieux, la croyance est une solidification, une homogénéisation du collectif. Il écrira ainsi que finalement, toutes les philosophies se sont trompées, elles ont toutes été des philosophies de l'être. Ce qu'il fallait faire pour penser le collectif, c'est une philosophie de l'avoir. Et la philosophie de l'avoir, elle contribue à poser cette question, à savoir comment est-ce que l'individu entre en synergie avec d'autres individus, possède d'autres individus et est possédé par d'autres individus. Il écrira donc ce texte magnifique, « La possession est le fait universel, la capture, la possession, l'assimilation. » Et cette possession ne règle pas simplement le niveau anthropologique, elle règle tous les niveaux. Le niveau physique est un mode d'assimilation de la matière. Le niveau vital est un mode d'assimilation des autres vies. Et le niveau anthropologique lui-même, par l'imitation, est un mode de capture de l'altérité. Il écrit donc « La possession est le fait universel, tout être veut non pas s'approprier aux êtres extérieurs, mais se les approprier. Adhérence atomique ou moléculaire dans le monde physique, nutrition dans le monde vivant, perception dans le monde intellectuel, droit dans le monde social. La possession, aux formes innombrables, ne cesse de s'étendre des êtres aux autres êtres, d'un être aux autres êtres, par un entrecroisement de domaines variés, de plus en plus subtils. »